BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et en ce premier week-end du mois de juillet, eh bien nous allons longuement parler du Tour de France et du business autour de la Grande Boucle. La Grande Boucle qui a débuté ce week-end au Danemark. Notre première invitée est Stéphanie Carrasco, directrice marketing du groupe Aost. Le groupe Aost, eh bien c'est notamment Cochonou, la célèbre marque de saucissons, fête ses 50 ans, dont 23 ans de partenariat avec le Tour de France. Autre invité de La France à tout pour réussir, Grégory Trébaol, un de ses vélos électriques, le Isolex, sera présent sur le stand Cochonou du Tour de France. Mais Grégory Trébaol est surtout avec nous pour parler de l'évolution de son groupe Easybike, qui assemble des vélos électriques dans son usine de Saint-Lô. Easybike qui change d'ailleurs de nom et s'appelle désormais Rebirth. Enfin, deux pépites de la French Tech dans cette émission, plateforme SH dans le domaine du cloud et puis Aircall dans le domaine de la téléphonie d'entreprise. Aircall qui est devenu un des tout premiers centaures français. Et on va d'ailleurs commencer donc cette émission avec ce centaure français Aircall. Centaure, c'est donc pour faire simple une licorne qui est en train de réussir, car après les levées de fonds, elle arrive à générer du chiffre d'affaires et de chiffre d'affaires récurrent. Le seuil est fixé à 100 millions de dollars par an. Et c'est donc le cas d'Aircall, dont le cofondateur Jonathan Angeloff était cette semaine invité de Tech & Co avec François Sorel. Il nous explique tout d'abord le cœur de son activité, c'est donc la téléphonie d'entreprise.
En quelques mots, Aircall, c'est de la téléphonie d'entreprise, donc on permet aux sociétés, où qu'elles soient dans le monde, de mettre en place l'intégralité de leur système téléphonique sans besoin d'aucun poste. Tout se fait dans le cloud et l'ensemble des outils s'intègre aux outils que les entreprises utilisent déjà. Donc la téléphonie va être connectée au CRM du client, va être connectée à l'outil de service client du client, donc le helpdesk. On va avoir des remontées de fiches, les enregistrements d'appels vont être poussés automatiquement dans les
retranscriptions aussi.
Retranscriptions vont être poussées, on peut faire des recherches sur les transcripts. Donc ça permet aux équipes d'être beaucoup plus efficientes, notamment les services clients et les services commerciaux.
Donc, vous êtes aussi une figure du Next 40 et donc licorne. La nouveauté, donc, c'est que vous êtes dorénavant Centaure et vous êtes... C'est rare, en fait. Je crois qu'il n'y a que 150 boîtes dans le monde qui sont Centaure aujourd'hui.
Oui, en fait, on a beaucoup communiqué sur les licornes ces dernières années et assez peu sur les Centaures. Donc, récemment, Bessemer, qui est un investisseur mondial, en a parlé pour la première fois dans un article qui était assez intéressant. Et c'est vrai que donc le Centaure, qu'est-ce que c'est ? C'est les 100 millions d'ARR. Et c'est vrai que pour ARR annual
donc, revenu annuel récurrent,
c'est ça. Et en fait, pour un outil business B2B, c'est... un vrai passage à l'état, on va dire, un peu plus mature, vu que ça prouve qu'on a atteint cette taille de chiffre d'affaires et donc on a convaincu suffisamment de clients pour aller à ce niveau-là.
Oui, parce que c'est ça qui est fort. Bon, la licorne, c'est une vraie prouesse.
Voilà,
on est d'accord.
Mais c'est des valorisations.
C'est des valorisations qui peuvent disparaître, pas du jour au lendemain, mais qui
peuvent s'effondrer. Mais non, on le voit actuellement.
Vous, c'est du concret, c'est réaliste. Vous faites du business avec des chiffres donc élevés, c'est avec ce revenu annuel récurrent, donc qui, rappelons-le, doit dépasser les 100 millions.
Plus de 100 millions, et cela, on l'a fait en moins de 8 ans. Si on regarde la plupart des benchmarks, on regarde de 1 million à 100 millions, en combien de temps ça se fait. Les super boîtes le font entre 8 et 10 ans, et nous, on l'aura fait en 6 ans, du coup.
Aujourd'hui, vous êtes partout dans le monde ?
Partout dans le monde, on est présent, on a des clients dans un peu plus de 60 pays. Mmh. On a un peu moins, on a 8 bureaux dans le monde, avec 85% du chiffre d'affaires d'Aircall qui se fait hors France.
Est-ce que vous considérez toujours comme français ?
Bien sûr. Et on en est très fiers. Et justement, on communique énormément dessus, même si très tôt on allait aux États-Unis. Et aujourd'hui, plus de 30% de notre chiffre d'affaires se fait aux États-Unis. Mmh. Mais on se considère français parce que c'est là où on est né, c'est là où on a grandi et c'est là où il y a le plus grand bureau. Aujourd'hui, on emploie plus de 400 personnes en France, et dont 350 à Paris. Donc ça reste quand même le cœur névralgique d'Aircall.
D'accord.
Et il le restera au fil des années.
Voilà donc pour Aircall qui promet de rester une boîte française malgré sa forte croissance à l'international. Et même promesse et même contexte pour plateforme SH. Il s'agit d'une plateforme qui propose à ses clients d'héberger dans le cloud leurs applications web. Plateforme SH vient de lever 140 millions de dollars. On écoute Frédéric Play, c'est le président et cofondateur de la plateforme. C'était dans Good Morning Business.
Aujourd'hui, on est une société française, hein, très fière de l'être, 350 salariés, dont la majorité maintenant est aux États-Unis. Comme notre business, d'ailleurs, on a 55% de notre chiffre d'affaires qui vient des États-Unis. Oui. Moi-même, je vis aux États-Unis. Mon associé Damien, qui est français, vit aussi aux États-Unis. Le troisième, lui, reste à Paris. Donc, on a un espèce d'équilibre entre la France et l'Europe. Et évidemment, ouais, on a vocation, avec cette levée de fonds, à consolider notre part de marché aux US, voire la développer, maintenir de la croissance forte, donc faire plus de sales, plus de marketing, continuer à innover, et aussi faire des acquisitions. On pense que pour se développer, faire des acquisitions sera un bon levier pour nous. On en a fait une il y a un an, qui s'appelle Blackfire, qui a été un grand succès. On a récupéré une équipe très forte. Tout le monde est resté. Le leader de Blackfire est devenu notre Chief Product Officer, Fabien Potentier.
Alors évidemment, on va parler de cette levée de fonds, 140 millions de dollars. On connaît le contexte des marchés. On est à chaque fois étonné, Alexandra. On est content, on est fier de voir toutes ces French Tech qui parviennent à boucler leur tour de table dans ce contexte si compliqué. D'ailleurs, on va sans doute faire une année aussi bonne que l'an dernier. On va sans doute atteindre, grâce à vous notamment, hein, les 6 ou 7 milliards de levées de fonds sur le premier semestre. C'était plus dur quand même? Vous avez dû baisser vos prétentions, baisser votre valo?
Je suis très heureux de contribuer évidemment aux chiffres agrégés. Pour nous, c'était plus dur peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un marché dont les critères ont changé.
Bien sûr.
Aujourd'hui, en fait, les critères de beauté de 2022 sont pas ceux de 2021.
Le critère, par exemple, c'est de faire du cash. Ce que vous faites,
C'est d'être capital efficient.
Ouais.
C'est d'être capable de
générer des revenus. Voilà. D'ailleurs, vous avez raison. Aujourd'hui, on parlait beaucoup des licornes il y a quelques temps. Maintenant, on parle des centaures, c'est-à-dire que les entreprises qui sont capables de générer 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est pas encore votre cas, mais bientôt, non?
En tout cas, j'aime beaucoup plus le concept de centaure que le concept de licorne. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant. 100 millions d'ARR, c'est une vraie milestone. C'est une milestone sur laquelle, en plus, on peut emmener son équipe. C'est clairement à votre portée de pouvoir devenir un centaure, puisque c'est vraiment du chiffre d'affaires et donc c'est aller chercher des clients.
Dans combien de temps? 2-3 ans?
2-3 ans pour nous, ouais.
Et on va à présent complètement changer d'univers, sortir du cloud des centaures des licornes pour revenir à un événement bien plus terre-à-terre, mais un événement les plus suivis au monde. C'est le Tour de France qui démarre ce week-end au Danemark. Il sera en France à partir de mardi prochain. Le Tour, c'est bien sûr un événement sportif, c'est aussi un événement média. C'est le troisième événement sportif le plus suivi dans le monde, après les JO d'été et la Coupe du Monde de football, quand ils ont lieu. Et c'est donc forcément un événement business pour les marques qui y sont associées. Bonjour Stéphanie Carrasco.
Bonjour.
Vous êtes directrice marketing du groupe Aost, qui regroupe des marques de charcuterie très populaires, dont Cochenou, une marque présente sur le Tour de France depuis 1999. On va longuement en parler, mais tout d'abord, le groupe Aost, rappelez-nous les principales marques, des marques, je le disais, très populaires, très prisées des consommateurs français.
Tout à fait. Tout d'abord, le groupe Aost, c'est quand même 1400 personnes en France qui fabriquent de la charcuterie sèche pour le plaisir des gens au quotidien. Donc, on a 4 marques emblématiques. On a tout d'abord Aost dans l'irrésistibilité du jambon cru. On a ensuite la marque Justin Bridoux dans le partage, l'apéritif que tout le monde consomme au quotidien. On a la marque César Moroni, qui est la marque leader sur le chorizo. Et enfin, la dernière et non des moindres, celle dont vous venez de parler, Cochonou, le vrai goût du partage avec le bon saucisson.
Donc, vous lisiez 1400 salariés groupes répartis en 5 sites de production, 4 en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 je crois dans le Tarn du côté d'Albi. Il y a vraiment une forte présence et ce sont des producteurs de porc français uniquement qui travaillent pour ces 4 sites.
Alors pour la marque Cochonou, les pièces entières en saucisson, on travaille 100% avec des éleveurs français et on a même en cours de construction de filières avec lesquelles on travaille directement pour élever les éleveurs à avancer sur les process d'élevage.
On reparlera sur vos engagements très forts pris en matière de RSE dans quelques instants. On en vient à ce long partenariat donc entre la marque Cochonou et le Tour de France. Je le disais, donc 99, donc il y a 23 ans. Rappelez-nous un peu ce qu'est la présence. On a quelques symboles ici, mais ce qu'est la présence très concrète et sur le terrain de Cochonou sur le Tour de France depuis la fin des années 90.
Alors effectivement, hein, Cochonou et le Tour de France, ça fait 23 ans, une belle histoire d'amour. Et le premier lien, je dirais, hein, c'est que le Tour de France est avant tout un événement populaire où tous les gens peuvent aller voir leur coureur cycliste préféré qui passe à côté de chez eux. Et nous, Cochonou, on va à la rencontre de nos consommateurs. C'est ce lien vraiment important pour nous.
Alors avec des bobs,
avec des saucissons. Avec des bobs, avec surtout des saucissons. Ça leur permet de patienter, de passer un bon moment convivial en attendant les cyclistes. Et puis avec des bobs, effectivement, on distribue plus de 100 000 bobs chaque année.
100 000 bobs chaque année. Et je crois même 14 millions de sachets, mini-sachets de saucissons depuis 1999. 14 millions,
c'est hallucinant. C'est 500 000 personnes à peu près qui sont comblées chaque jour pendant 3 semaines et qui leur permettent effectivement de savourer notre bon saucisson.
Alors, on ne l'a pas dit, mais la marque elle-même a fêté ses 50 ans à la fin de l'année 2021. Donc, vous êtes né en 71, enfin pas vous, mais la marque Cochonou. Est-ce qu'il y a des goodies ou des objets qui sont spécifiques pour ce 50e anniversaire qui vont être distribués sur le Tour de France?
Tout à fait. Fort de cet engouement qu'on a autour du Bob Cochonou, hein, vous le savez, c'est devenu au-delà de l'objet collector, c'est vraiment devenu un accessoire de mode qu'on voit partout. On a créé un Bob 50 ans, donc il y en aura 40 000 sur les 100 000 qui vont être distribués cette année, qui vont être spécifiques. Et puis l'objectif, c'est d'aller vraiment fêter cet anniversaire, puisque pour le départ du Tour de France de Lille, le 6, nous serons avec Christian Prudhomme d'ASO pour couper le gâteau d'anniversaire des 50 ans. Et puis on va le fêter, j'ai envie de dire, pendant les 3 semaines à venir avec les consommateurs.
Alors une thématique de plus en plus importante, et surtout en cette année 2022, c'est évidemment tout ce qui est l'environnement, l'écologie, les thématiques RSE. Mmh. Comment est-ce qu'on gère ça quand on distribue autant d'objets avec des emballages, avec des est-ce que vous avez pris en compte récemment toutes ces thématiques qui sont aussi importantes et de plus en plus pour les consommateurs?
Alors c'est une thématique qu'on travaille dans le groupe AOS depuis très longtemps. On a mis en place un programme qui s'appelle Agir, justement le nom montre que on veut vraiment être dans l'action.
Acteur gourmand innovant et responsable,
tout à
c'est
fait.
Le sigle.
Voilà. Exactement. Et on a beaucoup de piliers pour avancer, et notamment, j'ai envie de dire, sur le Tour de France, on a 2 actions concrètes. Tout d'abord, au niveau de notre empreinte environnementale, avec le fait qu'on circule avec des 2 chevaux, on va compenser avec un programme de reforestation en France, pour justement aller compenser l'empreinte carbone. Lors de nos animations, on utilise un isolex, justement, pour améliorer cette empreinte carbone.
On en parlera un instant avec notre autre invité, Grégory Trébaol.
Et puis, on a effectivement l'emballage de nos saucissons qui est fait avec de l'emballage recyclable pour permettre de continuer cette boucle circulaire.
Les bobs aussi, c'est des matériaux
tout à fait.
Absolument. Vous parliez de reforestation, donc l'opération a commencé en 2021 et 120 arbres, je crois, ont été replantés dans le Puy-de-Dôme. Hein,
c'est ça. Exactement.
Et cette année, c'est la même chose?
C'est exactement la même chose. L'objectif, c'est vraiment qu'on soit neutre en carbone sur l'opération Tour de France.
Ça vous coûte combien une telle opération? C'est des partenariats annuels, pluriannuels. Comment se passent les négociations avec les organisateurs du Tour de France?
Alors, évidemment, hein, quand vous voyez que ça fait 23 ans qu'on est avec ASO et qu'on travaille main dans la main, c'est des opérations pluriannuelles. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est à peu près un investissement, c'est 50% de nos investissements sur Cochonou, parce que ça nous tient à cœur.
Investissement de communication.
De communication, de marketing, parce que ça nous tient à cœur, justement, d'aller voir nos consommateurs et d'être en lien direct avec eux. On a tous un souvenir d'avoir été sur le Tour de France et justement d'avoir rencontré la marque avec les grands-parents, la famille, les voisins. Et c'est vraiment cet engagement-là qu'on prend.
Et c'est chaque année, vous le renouvelez, ou c'est des contrats de 1, 2, 5 ans ou plus?
Oui, c'est des contrats pluriannuels qu'on renouvelle régulièrement, et on a eu des discussions pour effectivement continuer ce partenariat où nous sommes gagnants-gagnants là-dedans.
Alors, ce que ça vous coûte, j'ai pas eu le chiffre, mais j'ai compris que c'est 50% des investissements.
Exactement.
Ce que ça vous rapporte, est-ce que ça rapporte du business? Est-ce que ça rapporte de la visibilité, donc de la notoriété? C'est un mélange des choses, en fait.
C'est un mélange des choses. Alors, ça rapporte effectivement, parce qu'en plus le Tour de France passe au mois de juillet, qui est quand même le pic de saison de consommation de l'apéritif.
Pour les apéros, voilà.
Donc c'est plus de 20% hein, de volume qu'on peut faire pendant cette période-là. Et puis ça nous rapporte surtout ce contact qu'on peut avoir au quotidien. Alors la notoriété Cochonou est déjà très connue, puisque 9 Français sur 10 connaissent Cochonou. Il faut savoir que chaque heure, il y a 1000 saucissons qui sont vendus et qui seront consommés Cochonou en France.
En France.
Donc c'est énormissime. Par contre, le gros intérêt, c'est qu'on va au contact des consommateurs et des jeunes générations. On rencontre non seulement les gens qui nous consomment, mais aussi les enfants qui, plus tard, nous consommeront.
Et le mouvement vegan, etc., c'est pas très, très Tour de France, donc ça ne vous concerne pas trop encore?
Vous savez, ça reste effectivement quelque chose qui grimpe. Par contre, nous, ce qu'on regarde, c'est que l'engouement pour les produits, pour la consommation est quand même forte, et les gens ont besoin de se faire plaisir et se retrouvent dans cette convivialité qu'est le saucisson.
Et en termes de business, ça a vraiment un impact sur les ventes? Est-ce que c'est quantifiable?
C'est difficile à dire, parce que je vous dis, en même temps qu'on a le Tour de France, on voit cette croissance de volume, parce mais c'est aussi le moment où on est mis en avant dans les magasins, où on fait beaucoup d'apéritifs, où on sort, où on part en vacances. Donc il y a plein de choses qui font que c'est une forte saisonnalité.
La team Cochonou, cette année, c'est 22 caravaniers, si je ne me trompe pas, donc qui arboreront non seulement des chemises made in France, mais donc qui auront à leur disposition un Isolex. Parlez-nous de ce partenariat donc, avec le groupe Easybike qui va devenir Rebirth.
C'est quelque chose qui est venu tout naturellement. On vous a expliqué qu'on a un programme effectivement de développement durable et on essaie de regarder tout ce qu'on a. Et ça nous a paru comme une évidence, en fait, d'utiliser le Isolex pour nos animations et pour vraiment limiter toute notre empreinte carbone. Donc, et puis, je tiens à remercier tous les caravaniers qui vont attaquer, là, qui attaquent dès aujourd'hui.
À Copenhague.
Ouais, et qui vont faire un travail formidable en représentant la marque avec voilà, un engouement et un partage incroyable.
Alors, ce partenariat, donc, je m'adresse à vous, Grégory Trébaol, ce partenariat avec la marque Cochonou, il s'est imposé. Voilà, vous aviez aussi besoin, vous, d'une exposition, d'une visibilité, au moins dans la partie de la caravane du Tour de France ?
Alors, effectivement, Solex, et c'était intéressant d'écouter un petit peu l'ADN de la marque Cochonou, puisque Solex, effectivement, aussi en France, véhicule un certain nombre de valeurs, de partage, et on n'est peut-être pas à 9 Français sur 10 en termes de notoriété sur Solex, parce qu'on
mais
est
pas loin quand même.
Plus ancienne, mais effectivement, c'est on a pour habitude de dire qu'aucune famille française n'a pas eu un Solex dans toutes les générations.
Parce que la marque a été lancée en 46 et je crois 7 millions de vélomoteurs, puisqu'à l'époque c'était ça, écoulés entre 46 et 88. C'est quand même gigantesque.
Voilà, alors c'est presque un peu plus, puisqu'on est aux alentours de 8 millions de Solex commercialisés sur cette période, effectivement partout en France. Voilà, ça reste une marque emblématique qui véhicule un certain nombre de partages. Alors à l'époque, c'était les congés payés, c'était la liberté aussi de pouvoir se déplacer, des moments de convivialité, puisqu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de nostalgiques et de collectionneurs de la marque qui partent en pique-nique. Alors j'imagine avec les produits de ma voisine.
En Solex et avec du Cochonou.
Mais ouais. Solex et le Tour de France, c'est aussi une longue histoire, puisque... au moment de la reprise de Solex, on s'est intéressé un petit peu à tous les collectionneurs et j'ai en tête un collectionneur qui est devenu un ami, qui est Raymond Nissen, qui a une très grosse collection à Luxembourg et qui est le seul aujourd'hui à posséder la caravane que Solex avait faite pour suivre le Tour de France. Donc c'est une caravane.
Et ça c'était quand?
Ça c'était en 1960.
D'accord.
Donc en 1960, Solex est sur la caravane. On n'y est pas aujourd'hui directement. Cochonou utilise les produits Solex sur sa caravane. Mais à l'époque, Solex faisait la promotion. Alors, on était déjà un petit peu RSE puisque c'était la bicyclette qui roule toute seule et ouais. Il fallait à peu près 2 litres d'essence sur toute la journée étape. Et le Solex tournait tout seul sur cette petite plateforme. Donc ça c'est assez marrant.
Et cette histoire commune entre Solex et le Tour de France, quand vous avez repris la marque, c'était en 2013, vous avez profité, je crois, de la 100e édition du Tour de France pour créer une édition limitée des nouveaux vélos électriques que vous lanciez.
Exactement. Donc à l'époque, le vélo à assistance électrique n'avait pas l'engouement qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc on est resté quand même licencié Tour de France à fabriquer avec Solex des produits Tour de France pendant à peu près 8 ans. Et l'année de lancement était l'année pour la 100e édition du Tour, donc un départ qui se faisait exceptionnellement pour la première fois en Corse. Donc on avait fait 100 vélos Solex aux couleurs de la Corse.
Le bleu Corse.
Et on en avait fait 99 couleurs champagne, modèle Champs-Élysées. Pourquoi ? Parce que les bureaux de Solex étaient aux 99 Champs-Élysées et que l'arrivée du Tour se faisait sur les Champs-Élysées.
Alors on l'a dit, donc vous avez repris la marque Solex, c'était je crois dans les années 2013-14. Mmh. Vous avez relancé aussi toute une production ou un assemblage en fait de vélos électriques dans l'usine de Saint-Lô, dans la Manche. Et tout ça s'est fait sous la marque chapeau Easybike. Et cette marque, elle évolue. Ce week-end, à partir de dimanche, c'est le salon ProDes, qui est le salon professionnel du vélo. Et vous annoncez donc l'évolution de votre marque chapeau vers une autre marque.
Oui, qui s'appelle la marque Rebirth, donc Renaissance. J'insiste sur le fait que ce nom est choisi depuis quelques mois, même plusieurs mois, à l'occasion des 75 ans de la marque Solex qu'on a fêté au mois de novembre. Et en fait, la marque Rebirth, donc Renaissance, c'est pour redonner vie à de belles marques, à des belles endormies, puisqu'à l'époque où on a récupéré Solex, ça, on considérait que c'était une marque un peu endormie, mais on a également les marques Matra. On a repris également l'année dernière, à la même époque, les cycles Lejeune, donc dans le vélo musculaire.
Colline aussi.
Pardon ?
Les marques, la marque Colline aussi, je
crois. Alors, la marque Colline, effectivement, officiellement est reprise aujourd'hui. Donc, à chaque fois qu'on se voit d'une année sur l'autre, on a une marque à annoncer, une actualité.
Mais vous revenez quand vous voulez.
Effectivement, donc, on la représente dimanche au salon des Pro Days. Mais c'est également, pour faire le parallèle avec notre démarche RSE, Rebirth redonne vie aussi à un certain nombre de matériaux. Et le prochain Isolex et le prochain Matra va être dans des matériaux 100% recyclés à base de produits déjà recyclables. Donc c'est des nouveaux matériaux, on est disruptif dans ces matériaux et c'est un petit peu la nouveauté sur Solex qu'on va présenter dimanche.
Dans cette usine de Saint-Lô, vous avez une capacité de production de combien de vélos à assistance électrique ?
Alors la capacité de Saint-Lô est d'à peu près 120 000 unités. On va atteindre cette capacité rapidement en 2023, donc lors du second semestre 2023. Et donc on est en train de réfléchir à un second site de production qui nous permettra également d'accueillir une usine de fabrication de composants, puisque comme on l'avait évoqué l'année dernière,
difficulté
la pénurie de composants nous touche encore.
Cette deuxième usine, elle serait dans le même secteur, dans la Manche ou dans une autre région ?
Aujourd'hui, le lieu géographique n'est pas encore défini. On a besoin de réfléchir et de mûrir ces projets, puisque l'idée est de venir travailler sur un site qui va fabriquer des composants, mais qui en même temps assemblera des vélos du groupe ou d'autres marques.
Les effectifs à l'instant T de votre usine de Saint-Lô et ce peut-être à venir si vous avez déjà ce chiffre en tête pour la
capacité
usine.
Future de la seconde usine sera à peu près 3 fois la capacité de production de celle de Saint-Lô, donc on vise entre 400 et 450 000 unités parce qu'aujourd'hui on a une perspective sur les 5 prochaines années avec nos partenaires et nos clients de les accompagner. Aujourd'hui le groupe compte une centaine de personnes, on a 65 personnes sur Saint-Lô et une trentaine, 35 sur Paris pour travailler sur, on va dire, l'ensemble des marques.
Alors on a vu le Isolex, donc vous révélez ce week-end. Permettez-moi de vous parler d'un autre vélo électrique, le vélo assistance électrique officielle du Tour de France. Évidemment, il est made in France, assemblé en France. C'est le vélo MAD que l'on suit depuis très longtemps d'ailleurs sur BFM Business. On va l'apercevoir donc sur ces images derrière moi, mais aussi il est en studio. C'est une édition limitée pour la deuxième année consécutive de ce VAE officiel. Il y a en fait donc 2 vélos produits en édition limitée aux couleurs du Tour de France. 50 exemplaires seulement pour chaque vélo. Et ces vélos, donc je le disais, sont assemblés comme toute la gamme MAD à la manufacture française du cycle. C'est à Machecoul, c'est en Loire-Atlantique. Et j'aimerais terminer cette spéciale Tour de France avec cette initiative de la FNSEA. C'est le premier syndicat agricole français lors de cette édition 2022 du Tour, puisque la FNSEA va faire partie de la caravane du Tour de France pour lancer une vaste campagne de recrutement qui devrait s'étaler sur 3 ans. Il y aurait actuellement en effet plus de 250 000 postes à pourvoir en France dans le secteur agricole. Les explications sont signées Pauline Tadevin.
Les agriculteurs auront leur char cette année dans la caravane du Tour de France. Un char et 2 monospaces vert bouteille aux couleurs de la campagne de recrutement de la FNSEA pour sillonner les routes du pays. Le principal syndicat du secteur s'appuie sur la force de frappe médiatique du Tour diffusée dans 190 pays et très regardée en France. Il ne dit pas combien il investit, mais l'opération s'étalera sur 3 ans avec des événements prévus aussi sur les salons professionnels. Une profession qui joue gros face au risque de pénurie de main-d'œuvre. Dans 10 ans, 50% des actifs pourront prétendre à la retraite et il y a de moins en moins d'enfants d'agriculteurs dans les centres de formation. La FNSEA affiche 257 400 projets de recrutement pour cette année. Son objectif, c'est de séduire de nouveaux profils et de créer les conditions pour les attirer avec une meilleure rémunération, la modernisation des équipements qui réduit la pénibilité ou le développement du salariat. Elle recrute tout type de profils, hommes, femmes, du CAP au Bac plus 5, à l'heure où la souveraineté alimentaire est érigée en priorité stratégique.
Voilà, donc il me reste à remercier nos deux invités. Merci Stéphanie Carrasco, j'étais ravi de mettre à l'honneur cette marque emblématique de la charcuterie française qui produit, donc on le rappelle, à la fois dans le Tarn et dans plusieurs sites de production de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon Tour de France à vous et à vos équipes. Merci Grégory Trébal, on était ravi de mettre à l'honneur la marque Rebirth, c'est le nouveau nom de Easybike. Là encore, c'est du made in France, de l'assemblé en France, parce qu'on connaît les difficultés pour l'approvisionnement de certaines pièces, mais chaque semaine, on est vraiment ravi de mettre à l'honneur celles et ceux qui font la réussite de l'économie française. Merci à vous deux.
Merci
on
beaucoup.
Se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition de La France a tout pour réussir. Bon Tour de France et à très vite.
BFM Business, La France a tout pour réussir.